Papa, non, en 2024, créer un site web n'est plus une galère, c'est même devenu ultra simple, et notamment grâce à des solutions comme Squarespace. Squarespace est la plateforme tout en un pour permettre aux entrepreneurs de se démarquer et réussir en ligne, et ce, quelle que soit la taille de leur activité. Vous allez voir, tout y est. Vous pouvez vendre vos produits physiques ou services en un temps record. Vous avez des centaines de templates de sites web canon dans tous les domaines. Vous pouvez créer vos campagnes email. Vous pouvez même vendre votre propre formation en ligne. Donc, si vous voulez donner à votre business toutes les chances de se développer avec un outil à la fois performant et très simple d'utilisation, eh ben, je ne peux que vous recommander d'aller sur le site squarespace.com. En plus, à l'occasion de ce partenariat, Squarespace vous offre moins 10% sur votre première commande de site web ou de domaine avec le code Pauline. Alors, n'attendez plus et rendez-vous sur squarespace.com, code Pauline. Hello à tous, ici Pauline Léniaud et bienvenue sur Le Gratin. Le Gratin, c'est un podcast où j'interview des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et essayer de décrypter avec elles les clés de leur succès. On évoque leurs principes de vie, leurs trucs, leurs rituels, leur philosophie même, et mon objectif, c'est qu'en une petite heure à peine, vous puissiez retirer de ces mentors virtuels un maximum d'enseignements pour pouvoir ensuite les appliquer à vos propres projets. J'essaie de publier un nouvel épisode par semaine, tous les lundis matins, 6h15 tapante, mais j'envisage, pour tout vous dire, d'ajouter de nouveaux épisodes, plus courts, une vingtaine de minutes, à votre demande. Ce sera des épisodes consacrés à de plus jeunes start-upers notamment, ou simplement des réponses à vos questions. Je trouvais que c'était intéressant, voilà, de varier les formats et d'avoir également des épisodes un petit peu plus courts. Mais dites-moi ce que vous en pensez, notamment sur Instagram, vous savez que j'y suis assez présente, donc mon pseudo c'est Pelignau, P-L-A-I-G-N-E-A-U, et ça m'intéresse vraiment d'avoir vos idées, vos réponses, vos feedbacks, donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message et j'essaierai d'y répondre. Alors aujourd'hui, intro un peu plus courte, je passe direct à mon invité du jour et je suis très contente de recevoir mon ami Justin Ziegler, cofondateur et ex-directeur technique de Price Minister. C'est d'autant plus un plaisir pour moi de recevoir Justin que d'abord il fait partie de ces personnes que je connais très bien, investisseur de la première heure chez Gemio, mais avec qui j'ai jamais pris le temps de me poser et de vraiment lui demander tout ce qui me passait par la tête. Sur lui, sur son parcours, sur ses erreurs, sur ses difficultés, sur voilà, ce qui a fait sa personnalité. Et deuxièmement, je peux vous dire, pour connaître un petit peu Justin maintenant depuis 8 ans, qu'en plus d'être absolument brillant techniquement, d'être un très bon businessman, c'est tout simplement une très très belle personne. Et j'avais simplement envie de vous la faire découvrir. Après ses études d'ingénieur, Justin cofonde une première start-up. L'expérience tourne mal, assez vite, mais c'est trop tard. Il a été piqué par le virus de l'entrepreneuriat. Quand Pierre Kosciusko-Morizet, alias PKM, on va en parler dans le podcast, lance le recrutement du directeur technique de Price Minister, Justin postule, et l'histoire de leur première rencontre est d'ailleurs assez mythique. The rest is history, comme disent nos amis américains. Avec Justin, on a bien sûr parlé longuement de l'aventure Price Minister, sous son prisme. Il m'a révélé les moments les plus fous qu'ils ont vécu dans cette success story, mais aussi les coups durs, les déceptions, les échecs. Autant de moments marquants et riches d'enseignements qui n'ont, je crois, encore jamais été dévoilés au public. Aujourd'hui, la nouvelle vie de Justin, c'est d'être investisseur et d'accompagner de nombreuses startups. Il m'a expliqué ses critères d'investissement, ce qu'il recherche dans les startups dans lesquelles il investit et le rôle qu'il doit jouer pour être un bon investisseur. Si je prends un peu de recul, il y a une chose qui m'a toujours marquée chez Justin et qui transparaît, je trouve, assez bien dans cet épisode. Comme il l'explique, petit, il voulait être cow-boy, puis tombe dans la marmite de l'informatique très jeune et se passionne rapidement pour le développement. Je trouve que cette image du cow-boy ingénieur résume assez bien la complexité de la personnalité de Justin. Un caractère exigeant, mais profondément humain, rigoureux, mais extrêmement optimiste, pragmatique, mais rêveur. Mais je vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Justin Ziegler. Salut Justin et bienvenue sur le podcast.
Bonjour.
Je suis ravie de te recevoir, je suis d'autant plus ravie qu'on se connaît quand même depuis un moment et que ça fait longtemps que je voulais te demander, que je n'osais pas te demander, parce qu'il y a quelque chose qui est que souvent quand je connais les personnes, finalement je me rends compte que je les connais personnellement mais que je ne suis pas rentrée dans le détail de leur parcours, et donc avec toi c'était le cas aussi, donc ça me fait d'autant plus plaisir que tu aies accepté. Je te préviens, l'interview risque de ne pas être totalement chronologique, c'est pas très grave, mais voilà. J'aimerais commencer par te poser une première question qui est sur ton nom, Justin Ziegler. D'où ça vient, Justin Ziegler ? Quelles sont tes origines ?
Alors, mes origines. C'est un sujet assez long.
Ah. Donc je vais. Écoute, le podcast, c'est un format long, voilà. Mais
je vais essayer d'être bref. Donc Ziegler, c'est effectivement allemand.
D'accord.
Mon père est né en Allemagne.
Ouais.
Et Justin, c'est anglais. Et moi-même, je suis né à Londres. Et ma mère est née en Angleterre également.
Donc, d'accord.
Donc je suis très européen. Avec de l'allemand et de l'anglais. Et sachant que mon côté anglais n'était pas de l'anglais pur jus, parce qu'il y avait du français. Donc j'ai un petit peu de français et un petit peu de
quand
belge.
Même. D'accord, voilà. Écoute.
Et ce que la portion la plus entière, entre guillemets, c'est l'allemand. Et donc je suis vraiment 50% allemand.
Ah oui, d'accord. Bah, tu vois, j'apprends des choses dès le début, donc ça me fait plaisir. Alors justement, parlons un peu du début quand même et du commencement. Si je ne dis pas de bêtises, tu as vécu en France quand tu étais petit ou même pas du tout?
Je suis arrivé en France à l'âge de 5 ans.
D'accord. Est-ce que tu peux me parler un petit peu justement de ton enfance, de ta famille, voilà, comment c'était à l'époque? Comment était le petit Justin?
Alors, le petit Justin, né à Londres, arrivé en France à l'âge de 5 ans. Et je suis arrivé en France, dans le sud de la France, dans la France profonde. Donc, j'ai encore un accent du sud qui s'entend de temps en temps, surtout quand j'ai bu un ou deux verres d'alcool. Et une façon de parler qui vient du sud. Hein. J'étais à Agen. Je suis allé au collège à Agen. Et j'étais interne à la semaine. On habitait à une heure de bus d'Agen. Et donc, je me levais à 5 heures le lundi matin pour aller à l'école pour la semaine, dès la sixième. Et avant ça, j'étais en primaire. Alors ça, c'était assez extraordinaire. J'étais dans mon école primaire, il y avait donc CP, CE1, CE2, CM1, CM2. Donc 5 classes dans lesquelles il devait y avoir 4 gamins.
Ah oui.
Dans chaque classe. Et tout ça était dans la même pièce.
Donc c'était
du cours
particulier.
Un seul instituteur. Un seul instituteur,
oh là là,
qui gérait les 5 classes en parallèle.
Ah oui.
Donc c'est quelque chose qui est totalement surprenant aujourd'hui, puisqu'on n'entend plus jamais plus du tout parler de ça.
Ouais.
Mais voilà, et ça c'était dans le petit village de Roquecor, près de Montaigu du Quercy, dans le Quercy donc. Et je faisais 5 km à pied tous les matins
pour aller
à l'école à travers
incroyable.
La campagne. Voilà. Puis après je l'ai fait à vélo, et je me souviens d'un jour où je suis rentré chez moi. Un matin, couvert de sang, puisque j'étais tombé dans mon vélo alors que j'allais assez vite, et je m'étais gratiné le visage, les jambes et tout. Et je suis arrivé chez moi et j'ai retrouvé ma mère couvert de sang, et ma mère a paniqué.
Paniqué, ouais.
Voilà, mais donc ouais.
Et t'en gardes un bon souvenir de cette époque?
Bah, évidemment, ouais. Ouais, c'était super. Le premier souvenir qui me vient, c'est, tu vois, je sais plus en quelle saison c'est, ça doit être en automne, où je faisais cette marche le matin, et donc je devais descendre la vallée, descendre dans la vallée, traverser la vallée et remonter de l'autre côté. Et je faisais ça pas uniquement sur les routes, je prenais aussi des petits chemins de traverse pour aller le plus droit possible. Et j'ai ces souvenirs de la rosée dans les toiles d'araignée.
Mmh. Ah oui.
Tu vois le truc, j'ai ce souvenir du soleil levant et de marcher dans la campagne.
Magnifique.
Tous les matins à travers ce paysage de rosée sur les toiles d'araignée. Et voilà, donc ça c'était pour le primaire.
Et toi, t'étais comment à cette époque? Parce qu'en plus, c'est pas simple quand même quand tu viens d'un autre pays, donc tu devais parler anglais, je pense, quand t'étais à Londres.
Alors, oui, bien sûr,
qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe? T'étais plutôt quelqu'un d'extraverti, introverti, déjà très bosseur. Bon, à l'âge de 5 ans, c'est peut-être difficile à dire, mais voilà, tu dirais, toi, ta perception, c'était quoi? Et puis, qu'est-ce que peut-être les gens, tes parents, disent de toi quand tu étais petit?
De cette époque-là, je sais pas. J'étais très amoureux de ma mère. J'étais un petit garçon vraiment très amoureux et très, très attaché à sa mère. J'avais une relation très forte. J'ai d'ailleurs encore une relation très forte avec ma mère. Je ne saurais pas dire quelle image, mis à part celle-là, tu vois, c'est marrant, je ne saurais pas dire quelle image je pouvais donner ou avoir. Après, j'étais très... Je m'amusais, donc quand j'étais pas à l'école, je m'amusais dans la campagne, je pouvais passer une journée entière, ou disons une après-midi entière, à 2 km de la maison dans un champ en train de faire un barrage sur un ruisseau et d'inonder le champ, si tu veux. Et ça me... et où à un moment donné, je me suis fait engueuler par le voisin, par l'intermédiaire de mes parents, parce que j'avais abattu un petit peu trop d'arbres dans sa forêt, si tu veux,
oui.
pour faire ma cabane.
D'accord. Donc déjà donc, le côté constructeur ouais, bâtisseur, c'était
ouais,
quelque
j'avais
chose.
Le,
qui...
Ouais, et que c'était des barrages, des barrages dans les ruisseaux ou des cabanes, effectivement.
Génial.
Il y avait déjà le côté constructeur. Je pouvais passer des heures à jouer au mécano, au Lego. Mais ouais, les cabanes, ça c'était un truc.
Et alors, tu voulais faire quoi quand tu étais petit, tu savais?
En fait, j'ai eu la chance d'avoir un cheval assez tôt. Fin de primaire, j'avais déjà ce cheval, ou disons, je profitais de ce cheval. Et en fait, je voulais être cow-boy.
C'est génial. Première fois qu'on me fait ce coup sur le podcast, je suis assez contente. Tu voulais être cow-boy, très bien.
Ouais, je voulais être cow-boy. Bah,
écoute, c'était quoi? C'était la liberté.
Je passais ma journée habillée en cow-boy, si tu veux. J'avais le chapeau, j'avais le petit, tu sais, le petit foulard, et j'avais le cheval aussi. Et du coup, j'allais voir mes copains qui habitaient à 5 km de chez moi, parce que tu vois là-bas, campagne, tout est étalé. Et j'y allais à cheval. Et donc, j'allais chercher le lait à la ferme d'à côté, à cheval. Non, voilà, j'allais chez mon copain, j'y allais à cheval. Et donc, le pauvre cheval, il passait la journée attaché en bas. Je désanglais et il passait la journée attaché en bas. Mais exactement comme on le voit dans les films de western, tu vois, où le cheval, il passe la journée à attendre.
Oui,
c'était pareil. Et puis, le soir venant, je ressanglais et hop, je repartais. Et puis, je passais à la ferme remplir le bidon de lait. Et je revenais d'ailleurs, c'était horrible parce que la couverture du cheval sentait le lait fermenté, tu sais, parce que forcément j'en renversais. Donc la couverture de la selle que tu mets sous la selle,
je
sentais le lait fermenté, c'était horrible.
Et qu'est-ce qui fait que tu n'es pas devenu cow-boy tout à fait, Justin? Enfin, peut-être que tu l'es d'une certaine manière, mais je crois savoir que tu as fait des études d'ingénieur après.
Alors ce qui s'est passé, c'est que donc, le cheval, ça venait de ma mère. Et mon père a été un de ses précurseurs et il a très tôt acheté un ordinateur pour prétextant qu'il en avait besoin pour son boulot.
Ça, c'était quelle année, tu dirais?
Dans les années 80.
D'accord.
Début des années 80, quand j'avais une dizaine d'années.
Oui, donc c'est quand même très tôt.
Ouais, ouais. Donc c'était vraiment en 1980, je pense. Ouais.
C'était quoi? C'était un Atari?
Non, c'était avant l'Atari. Enfin, ou non, non, ouais, c'était avant l'Atari. C'était même avant l'Apple IIe. C'était à l'époque des tout premiers Apple et c'était un Tandy, un TRS-80. Truc dont on a relativement peu entendu parler en France, mais qui a été un carton aux États-Unis. Donc, c'était vraiment le tout début d'Apple. Il n'y avait pas encore de... Si, peut-être le tout début de Microsoft, mais je ne sais pas. Et donc, voilà, mon père a acheté cet ordinateur. Et puis, j'ai eu la chance un jour de constater qu'il ne s'en servait plus beaucoup. Et je lui dis, papa, l'ordi, là, est-ce que je peux pas essayer de voir comment ça marche? Montre-moi un peu ce que tu faisais, là, si je peux pas essayer de le refaire marcher comme tu faisais avec le gars qui l'avait un peu installé. Je dis, ah bah oui, très bonne idée. Et puis, c'est comme ça que j'ai démarré une espèce de passion. Et j'ai fait des petits logiciels, des petits outils pour mon père. Pour l'aider à fabriquer ce qu'il fabriquait.
Et comment tu t'es formé à l'époque, parce que tu étais quand même très jeune, tu bidouillais, enfin, tu avais un mentor, comment tu as réussi? Enfin, tu vois, moi, c'est ça qui m'étonne un petit peu. Je comprends que tu étais un peu déjà bâtisseur dans l'âme, mais il y a un moment quand même où tu te dis, enfant...
Alors là, il faut se remettre dans le contexte. On était dans la France profonde, dans la brousse. Donc, on avait deux livres. Il y avait l'ordinateur. Et il y avait deux livres, ou trois.
Ouais.
Et c'était des livres en anglais. Et à l'époque, je ne savais pas lire l'anglais. Et bien, figure-toi que j'ai appris à lire l'anglais pour arriver à lire ces livres. Je parlais anglais, évidemment, je parlais anglais
T'as
avec mes parents.
T'as appris tout seul à lire l'anglais.
Et j'ai appris, à cause de ces putains de livres, qui étaient en anglais, et à cause de ma volonté et mon envie d'arriver à faire marcher l'ordinateur.
Qui étaient des livres sur comment coder.
C'était
ou...
des livres sur comment programmer en basique. Et il y avait surtout, il y avait des programmes... le code que tu pouvais recopier.
Ah ouais.
Et donc, j'ai recopié des programmes. Évidemment, ça ne marchait pas. Et puis, du coup, je passais au programme suivant que je recopiais péniblement.
Donc, t'as appris à la dure, quand même.
À l'époque, je tapais très, très lentement.
Ouais.
Et donc, finalement, j'ai réussi. Tu lançais le truc, donc tu tapais le truc. Et à la fin, tu dis, ça y est, j'ai réussi à taper. Et puis, tu l'enregistrais sur une cassette.
Ouais.
Ouais, et après, tu tapais run. Ouais.
Oh.
Et évidemment, le truc te disait syntax error, line 15.
Ouais.
Tu avais line 10, c'était la première, line 15, c'était la deuxième, tu avais déjà une syntax error. Tu corrigeais péniblement la syntax error. Et puis après, il te disait syntax error, line 20. Donc, tu corrigeais la syntaxe. Et puis après, tu arrivais à la ligne, je ne sais pas, 50. Et tu comparais ce que toi, tu avais tapé avec ce qu'il y avait dans le livre.
Ouais.
Et c'était pareil. Et le truc te disait quand même que tu avais une erreur. Donc là, c'était un peu rageant.
Ça devenait un peu compliqué.
Et donc finalement, à force de ça, après du coup, je prenais le livre qui t'expliquait ce que c'était que le basique et comment ça marchait. Et j'arrivais progressivement à comprendre
le
où était l'erreur. Quoi. Mm. Et donc, c'était vraiment du test and try, test and fail. Ça a été. Mais bon, après, j'étais un gamin, donc c'est pas comme si j'avais un. Tu vois, l'été,
à
la campagne.
T'avais
pas grand chose. On n'allait pas en vacances. C'était pas la fête entre mes parents à l'époque, donc on n'allait pas en vacances. Du coup, toutes les vacances scolaires, je les passais chez nous.
Et donc, naturellement, tu te diriges après tes études vers encore des études, mais d'ingénieur. Enfin, je veux dire, après le bac, vers des études d'ingénieur, parce que tu as cette passion de l'informatique qui continue à t'habiter.
Alors, oui, la passion de l'informatique a continué à m'habiter très, très fort. J'ai beaucoup codé, j'ai appris plusieurs langages de programmation tout seul après. Mais en version auto-formation, j'utilisais pas mal de bouquins, des choses comme ça. C'était avant l'internet hein, donc
c'est pour ça que je te posais la question, c'est qu'à l'époque tu pouvais pas aller sur Google et demander
Alors il y avait déjà des prémices d'internet déjà à l'époque, mais j'étais pas dessus. Il se trouve que j'étais pas dessus, donc j'étais beaucoup avec des potes tu vois, après le Tandy je me suis acheté un Atari, effectivement un 1040 STF, Et là, j'avais 1 méga de mémoire vive.
Ah, quand tu y penses, c'est incroyable.
1 méga de mémoire vive.
Et c'était énorme.
C'était un monstre. Hein, c'était un truc. C'était énorme. Hein. Quand c'est tu fou. Vois maintenant ce qu'on a dans nos téléphones, c'est juste hallucinant. Et c'était à l'époque du Macintosh. Ouais, l'Atari, c'était l'Atari 1040 ST. Mm-hmm. Là, c'était une sorte de copie du Macintosh, en fait.
Mm-hmm. Oui, je vois très bien. Il se trouve que je l'avais aussi. Enfin, mon père était un peu précurseur aussi. Mais moi, finalement, tu vois, je n'ai pas du tout fait des études d'ingénieur. Donc, tu avais quand même un peu la fibre, on veut dire.
Oui, parce que ce soit en fait côté anglais ou côté allemand, il y avait à la fois de l'entrepreneur et il y avait un héritage d'entrepreneur et un héritage d'ingénieur.
Parce que tes parents, ton papa était ingénieur, c'est ça aussi?
Non, mon père n'était pas ingénieur, mais son père était scientifique. Son père a fait partie de l'équipe qui a mis au point la photo couleur en Allemagne.
Ah ouais.
Donc c'était très scientifique, très ingénieur, c'était docteur, c'était Herr Doktor Ziegler, c'était pas voilà. Et du coup, même lui, ses parents étaient entrepreneurs. Ils avaient à Berlin, ils avaient une usine de fabrication de machines à laver.
D'accord. Fait. Alors j'ai vu un truc en faisant mes petites études sur toi, même si évidemment on se connaissait, mais j'ai vu donc que tu commences après tes études d'ingénieur à travailler. Tu travailles dans plusieurs boîtes, notamment dans le software, si je ne me trompe pas.
Oui.
Et ma question, c'était, ce que je trouve intéressant, c'est que tu n'es pas devenu tout de suite entrepreneur. Et il y a souvent, un peu un mythe que pour être un bon entrepreneur, il faut commencer très tôt, etc. Et toi, finalement, tu as attendu un petit peu de temps. Et ma question, du coup, c'était, est-ce que tu avais cette idée toujours au fond de la tête de devenir entrepreneur, de créer une boîte ou de participer à une création de boîte, et tu t'es juste dit qu'il fallait te former d'abord? Ou est-ce que juste, tu ne te posais pas tellement la question et tu as saisi les opportunités quand elles arrivaient?
Alors, c'était pas aussi conscientisé, pour utiliser un mot canadien, que ça peut l'être aujourd'hui chez les étudiants.
Ouais.
J'avais l'ambition, j'avais cette petite voix qui me disait que j'allais faire des choses un petit peu
extraordinaire.
Oui, je sais pas quel mot utiliser.
Je sais que t'es un peu humble, mais on peut le dire.
Disons que j'allais faire des choses qui étaient pas celles de Monsieur Tout le Monde, on va dire. J'avais cette ambition et j'avais une petite voix en moi qui me disait qu'il y en avait qui avaient déjà réussi dans mes ascendants. Donc, il n'y avait pas de raison que moi, je n'y arrive pas. Et je pense que c'était peut-être aussi une forme de revanche aussi à prendre sur mon père ou pour mon père qui a été un entrepreneur relativement peu successful, mais qui a été récidiviste, on va dire. Et donc, y avait une voix en moi qui me disait « moi, je vais y arriver ». Mais je savais pas, j'avais pas forcément conscience que ce serait par la voie de la création d'entreprise. C'était bien avant la mode des startups.
Ouais, bien sûr.
Enfin, moi, quand j'ai commencé à bosser, c'était vraiment les tout débuts d'Internet.
Bah, déjà, bosser dans le software, c'était très innovant quand même à l'époque, non ?
Non, ça, c'était pas si innovant que ça. Mais en revanche, Internet, oui. Moi, j'ai des gens avec qui j'ai fait mes études en informatique qui n'ont pas bossé dans l'Internet, qui bossent sur du software classique. Donc oui, c'est la dimension software-Internet, ça, c'était innovant. Et puis après, il se trouve que j'ai eu la chance de collaborer avec, enfin, de travailler dans une start-up. Mon premier boulot, ça a été dans une start-up. Mon stage, même de fin d'études, c'était dans une start-up. Donc ça a été une énorme chance.
Mais un peu par hasard en fait.
Par hasard, tout à fait par hasard. Il y a eu plein de hasards.
La chance, ça joue quand même.
La chance, plein d'étoiles qui se sont alignées pour moi.
Alors tu travailles quand même plusieurs années, je crois, dans ces startups et au bout d'un moment, donc je voulais évidemment te parler du début de Price Minister. Tu vas cofonder cette entreprise, donc avec notamment PKM, Pierre Kuschke-Morizet qui vient, je crois, chercher un CTO, donc un directeur technique. Est-ce que tu peux me raconter justement cette histoire et comment ça s'est fait ? Parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui se posent la question, je le sais, sur l'association. Et vous, ce que je trouve intéressant, c'est que vous ne vous connaissiez pas, si
On
je
ne
me
se
trompe
pas.
Pas.
Ouais,
ce qui est assez rare. Et il y a beaucoup de gens qui passent par leur réseau. Enfin, tu sais que moi, je suis associée avec mon mari, etc. Comment est-ce que ça se passe quand tu as quelqu'un que tu ne connais ni d'Ève ni d'Adam qui te dit j'ai un projet, je cherche un directeur technique parce que je crois que c'était précis en plus.
Oui.
Voilà, est-ce que tu peux me raconter un peu comment ça s'est passé ?
Alors, il se trouve que moi, je sortais d'une première expérience. Donc, j'ai eu, si je refais juste un tout petit peu mon CV très rapidement, j'ai eu ce début dans cette start-up Internet. Qui a donné naissance à un projet de création de premier système de paiement sécurisé sur Internet en France, auquel j'ai contribué. Ça, c'est un projet qui a, on va dire, il y a eu un conflit d'actionnaires, et j'ai fait partie, donc là, ensuite, j'ai eu ma première expérience entrepreneuriale, puisque j'ai fait partie de l'équipe, même si moi j'étais très minoritaire, j'ai quand même fait partie de l'équipe qui ont repris le fonds de commerce et qui ont décidé de développer la V2
D'accord.
du système de paiement. Et donc ça a été ma première expérience entrepreneuriale avec des gens beaucoup plus seniors autour de moi. Moi j'étais le petit junior dont on se dit « ouais, il vaut peut-être mieux qu'on le prenne le Ziegler là parce qu'il n'est pas trop mauvais et il a l'air de bien connaître le système qu'on a fabriqué ». Donc j'étais embarqué comme ça. J'ai décidé de quitter le navire à un moment donné où je me suis rendu compte, et donc c'est mon premier fail en fait, puisque j'ai décidé de quitter le navire à un moment donné où je me suis dit bon bah on est trop tôt, enfin non, c'est aujourd'hui que je le dis comme ça, à l'époque je ne l'ai pas dit comme ça, mais en réalité on était trop tôt sur le marché puisque
D'accord.
personne n'achetait rien sur Internet.
Ouais. Oui, donc développer donc, un module de paiement sur Internet.
Un système de paiement sur Internet, ça ne servait pas à grand-chose, même s'il était extrêmement bien, c'était mieux que PayPal ce qu'on avait déployé. D'ailleurs, pour l'anecdote, on a discuté avec les gens de
c'est
PayPal
vrai
à l'époque. Ouais.
Dans le cadre d'une session
Je ne sais plus exactement quel était le sujet, mais on les avait rencontrés. On les avait rencontrés. Et bref... où est-ce que j'en étais? Donc, première expérience entrepreneuriale. Suite à ça, je me suis dit, bon, il faut que je me change les idées. Je suis allé faire du conseil, de la prestation de conseil. Ça a été une catastrophe. J'ai passé un an à me faire chier. Et ensuite, je me suis dit, non, il faut vraiment que je retourne dans un truc plus start-up, plus Internet, vraiment un peu plus sexy, truc qui est un peu péchu, un peu dynamique. Parce que, en fait, réellement, je m'endormais tous les jours derrière mon clavier. Je disais, bon, à un moment donné, j'avais la tête qui se cognait sur l'écran parce que je m'endormais de... Bref. Et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai eu mon deuxième fail. où je me suis retrouvé directeur technique pour la première fois de ma carrière dans une start-up avec que des très jeunes autour de moi qui n'avaient même pas fini leurs études.
C'était le plus senior entre guillemets de la boîte.
J'étais le plus senior des Tecos, mais le fondateur était encore plus senior que moi. Donc j'étais censé être le mec qui arrivait et qui mettait un petit peu tout le monde au garde-fous, qui mettait de l'ordre dans cette jeune équipe de mecs qui sortent de l'école.
C'était quoi cette boîte ? C'était quelle ?
Ça s'appelait Profile for You.
D'accord. Et c'était un truc de.
En fait,
c'est
l'équipe qui a donné naissance à Eulerian.
Ah oui, donc bon, ça aurait été un beau succès aussi.
Oui, c'était un très très beau projet. C'est pour ça que j'ai rejoint ce projet. Humainement, c'était un peu compliqué.
D'accord.
Et c'est pour ça que ça a été mon premier fail. Ça a été un fail humain, puisque je dirais que la grève du directeur technique sur cette jeune équipe n'a pas pris. Et donc, à la fin de ma période d'essai, on a convenu qu'il valait mieux que je cherche du boulot ailleurs. Mmh. Et c'est ce que j'ai fait. Et c'est en l'espace de quelques jours que j'ai rencontré Pierre et Pierre, donc Pierre PKM et Pierre Krings, qui cherchaient un associé directeur technique. Voilà.
Et donc, tu les rencontres. Comment ça se passe, le fit ?
Alors, il y a pas mal d'anecdotes sur le sujet.
Tu peux tout nous dire, Justin.
Le premier choc, c'est que donc j'arrive chez Pierre Krings, dans l'appartement de Pierre Krings, pour la première rencontre, premier entretien. Et ils ouvrent la porte et j'ai une sorte de frère jumeau qui...
Bah, c'est vrai qu'il faut... Je mettrai peut-être des photos d'ailleurs sur Instagram, mais en fait, bon, Justin ressemble énormément à Pierre Cosque-Morizet.
Plus aujourd'hui.
Le côté un peu roux.
Mais à l'époque,
bah, il a une coupe de cheveux différente.
Exactement la même coloration. Ouais. À l'époque, on avait exactement la même coloration. Même implantation de barbe. Mmh. Bon, il a peut-être un petit peu plus dense que moi, mais la coloration était exactement la même. Et même sa mère nous a confondus, si tu veux. À une dizaine de mètres de distance, sa mère nous a confondus à deux reprises, quand même, tu vois. Pour te dire à quel point la ressemblance était forte. Premier choc et qui fait qu'évidemment l'entretien démarre avec un certain sourire, si tu veux. Il y a déjà une certaine connivence. Pierre est un séducteur et je pense que je correspondais exactement au type de personnalité qu'il cherchait, à l'expérience qu'il cherchait. Mmh. J'avais une expérience e-commerce, paiement, paiement sécurisé.
Et toi, donc lui, je comprends qu'il était intéressé par ton profil. Toi, tout de suite, tu t'es dit bingo. Enfin, je comprends que tu cherchais un travail dans une start-up que tu avais envie de cofonder. Qu'est-ce qui a fait que tu y as cru ? Qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de signer avec ton sang ? Parce qu'après, on va en parler, tu as quand même énormément bossé. Tu vois, alors que c'était une époque où c'était encore très incertain, et puis c'était une boîte qui existait aux US.
Alors,
mais
il y avait beaucoup de boîtes qui se montaient. C'était un peu... en fait, j'en rêvais. Et je me suis dit, j'ai une super opportunité. J'ai trouvé l'équipe qui est complémentaire. Tu vois, c'est vraiment... c'était comme deux pièces de puzzle qui s'épousaient parfaitement. Là, ça n'a pas dû marcher avec le micro, désolé. C'était comme deux pièces de puzzle qui s'épousaient parfaitement, dans le sens où eux, ils avaient tout le réseau pour aller lever des fonds, toute l'expertise des ops, des opérations, du back-office, la compta, la finance, tous les sujets qui ne m'intéressaient pas. Eux, ils avaient besoin
d'un très très bon profil technique.
Ils ne connaissaient quasiment rien à Internet et moi j'arrivais à la fois avec des connaissances de qu'est-ce que c'est que l'Internet et avec des connaissances techniques très bien assises.
Alors, l'histoire du début de Price Minister, on en a quand même souvent entendu parler, mais je veux bien que tu me racontes ta version de comment justement, enfin, ça a décollé assez rapidement, si je ne me trompe pas quand même. Est-ce que tu peux me raconter un peu quelles ont été tout de suite les grandes étapes, tu vois, les grandes premières étapes, quelles ont été, toi, quand tu as commencé le début de Price Minister, ça ressemblait à quoi ? Enfin, il a fallu construire en plus.
L'un des trucs spectaculaires, et donc là, ça a été un de nos gros succès, là où on a été très très fort, et chapeau à mes associés là-dessus, hein, parce que c'est pas de moi que ça venait, c'est qu'on a été très très rapide.
Mais je sais.
On a Donc, moi, je leur ai serré la main.
Et c'était une volonté d'être rapide ?
Oui. Oui. Oui, oui. Moi, je leur ai serré la paluche le 15 août. Bon, pour faire simple, on va dire fin septembre, on avait déjà 20 mecs au boulot dans un bureau. Et on a lancé la première version du site le 16 janvier suivant.
Alors que c'est un très gros site quand même. C'est
alors qu'on n'avait pas levé de fonds.
Ouais.
Et donc,
mais
on a réussi...
Comment vous avez financé ça ? Je ne comprends pas.
On ne l'a pas financé. On l'a réussi sur notre gueule et avec le pouvoir de séduction de Pierre essentiellement. Et je pense aussi avec la force et la cohésion de l'équipe qu'on formait. La conviction, si tu veux, le leadership qu'on pouvait afficher et annoncer. On a réussi à convaincre des gens de bosser avec nous 6 mois sans être payés.
En leur disant vous serez payés après.
Vous serez payés le SMIG dans 6 mois. Et les gens ont accepté.
C'est
et incroyable. Et donc pendant 6 mois, vous êtes au SMIG, ce qui va nous donner le temps de lever des fonds. Quand on aura levé des fonds, on vous paiera vos 6 mois d'arriéré et à ce moment-là, on verra votre salaire.
Et à l'époque, c'était un peu une armée de techos, non, qu'il y avait.
Alors, très vite, on s'est retrouvé avec une dizaine de techos, ouais. Et d'ailleurs, il a fallu réduire, un an plus tard, il a fallu réduire significativement. On a divisé la taille de l'équipe technique par 2, ce qui a été extrêmement douloureux. Et ce qui fait que moi, j'ai plongé, je dirais, la tête sous l'eau et j'y suis resté pendant longtemps. Et j'ai eu beaucoup de mal, et ça, je pense que d'autres s'y reconnaîtront, j'ai eu beaucoup de mal à un moment donné à m'extraire de l'eau, un peu comme à quel point j'ai fait du surf récemment avec mes enfants. Donc, j'ai découvert que quand tu essaies de te mettre debout sur la planche, tu peux avoir une partie de la vague sur le dos, en fait. Ouais. Tu es en train d'essayer de te mettre debout sur la planche et en fait, tu as la vague qui te colle sur la planche.
Je vois très bien.
C'était exactement ça. Quand il a fallu que je me remette à recruter, en fait. Donc, on est très vite monté à 10. Ensuite, pour lever des fonds, pour faire la deuxième levée de fonds, on s'est engagé à réduire les coûts.
D'accord.
Et on a vécu longtemps à coûts très réduits.
Bah, surtout qu'en plus, je me permets de t'interrompre, c'était une époque qui n'était pas facile. Parce
éclatement de la bulle, en 2000, bien sûr.
Donc, lever des fonds à l'époque, ce n'était pas simple.
Et surtout sur un concept de marketplace qui était un mot tabou. Donc, ça n'a pas été évident. On a levé des fonds qu'avec des business angels. On a fait 2 tours de business angels. Troisième tour, on a eu encore les mêmes business angels, quelques-uns de plus et un petit fonds. Et c'est seulement tour qu'on a eu 3i qui est rentré.
Et alors justement, au niveau, je ne sais pas si c'est difficile facile de prendre du recul comme ça sur l'expérience qui a duré quand même assez longtemps. Je crois que tu es resté au moins 8 ans là-bas, même plus, non ? Non,
chez Price.
Plus que 8 ans.
Enfin, qu'est-ce que tu veux dire ? Enfin, 15 ans au total.
15 ans total, oui, c'est ça. 8 ans avant la vente, c'est ça, non ?
10.
10 ans. Bon, tu vois, je connais mal mes chiffres. Mais ma question, c'était au bout de combien de temps est-ce que tu as commencé à sentir qu'il se passait quelque chose au niveau de la
boîte ? Alors, ce qui s'est passé... Enfin, en fait, il s'est passé quelque chose très vite, en fait. Très vite, on s'est retrouvé à courir derrière la croissance et à gérer la croissance. Maintenant, quand tu pars de rien, c'est facile d'avoir de la croissance, tu vois. Donc, je pense que le vrai tipping point...
Quand tu dis, pardon, courir après la croissance, c'était il y en avait tellement que vous gériez, ou c'était que vous couriez pour
Moi, j'étais en permanence en train de colmater les brèches et d'éteindre des feux en permanence. Mmh. C'était mon job. Et donc, on était en train de gérer la croissance, de courir devant la croissance ou derrière.
Et ça, cette croissance exceptionnelle, pour toi, elle est liée au génie marketing
On parle de surfer sur la vague, donc c'est une très bonne image. Hein, c'est que Internet grossissant, on était là au bon moment, et donc le nombre d'utilisateurs d'Internet augmentait, et donc il y avait un pourcentage de ces utilisateurs qui tombaient par hasard sur Price Minister. Il n'y avait pas énormément de e-commerçants à l'époque. Et puis on était visible parce qu'on faisait du marketing, donc fatalement y en a une partie non négligeable. C'est comme dans une rue commerciante, il y a un certain nombre de gens qui vont voir ta vitrine. C'était assez mécanique, et surtout il y a eu l'arrivée de la DSL, et c'est là, je pense, le tipping point. Ça a été l'arrivée de la DSL et l'adoption de la DSL, et qui fait que l'Internet s'est généralisé et qu'il y a eu finalement Internet qui est arrivé dans tous les foyers grâce à la DSL, et surtout à des niveaux qui faisaient que c'était utilisable. Ça devenait utilisable.
Oui,
Ça, c'est-à-dire, ça devenait, c'était le niveau de pénibilité
tu
pour utiliser.
Tu passais pas 30 minutes à recharger une page, quoi.
Exactement, exactement. Et donc ça a été un point crucial. Et après, je me souviens de discussions qu'on avait où on parlait de ça comme de façon assez banale, mais on avait 30% de croissance d'un mois sur l'autre.
C'est énorme.
Et du coup, donc tu calcules, ça fait qu'en 3 mois, on faisait x2. Mmh. Et donc moi, je me souviens d'expliquer ça à mon hébergeur. Et l'hébergeur, il me dit, mais monsieur Ziegler, c'est pas possible.
Vous mentez.
Et ouais, c'était.
Mais même en termes de recrutement, en termes à tous les niveaux, ça devait être. Enfin, à la fois, c'est un problème de riche, si je puis dire, mais ça devait être très, très compliqué pour toi à gérer parce que j'imagine que les relations ne devaient pas être simples non plus parce que t'as. Enfin, moi, je vois, je suis plutôt au marketing chez Gemio. Quand tu pousses les ventes, ben, en fait, toi, t'es juste à fond pour pousser les ventes. Et puis, toi, Justin, t'étais plutôt l'inverse, la personne qui était en train de dire non, mais attendez, faut peut-être un peu sécuriser les fondations. Ton côté un peu builder, en fait, fait que.
Alors, je pense que justement, là où on a été assez bon, on a eu la chance de faire des bons choix techno dès le début, qu'on n'a jamais remis en cause. C'est-à-dire qu'on n'a jamais dit « Ah ben là, il va falloir changer de techno, jusqu'à présent on a tout fait en PHP, il faut passer en Java, ou il faut… » Non, on n'a jamais fait ça. Ou on a utilisé tel composant, c'est de la merde, il faut passer sur autre chose. Non, on n'a jamais eu ça. On a eu la chance de faire des très très bons choix techno très tôt. Ensuite, pardon, il y a eu un choix de techno qu'on n'a pas fait tôt parce qu'on s'est dit qu'on pouvait vivre sans. Et on a vécu sans jusqu'à pisser le sang.
Et c'était quoi?
C'était le moteur de recherche.
Ah oui.
On a volontairement utilisé la base de données en guise de moteur de recherche jusqu'en 2005, donc pendant 5 ans. Et en 2005, j'ai enfin réussi à faire une négo satisfaisante avec un acteur des moteurs de recherche pour mettre en place un moteur de recherche sur Price Minister. Mais c'est assez marrant parce que aujourd'hui, tous les sites, grâce à des boîtes comme Algolia, aujourd'hui, tous les sites se lancent from scratch avec un moteur de recherche ou grâce à Elasticsearch. Tout le monde a un moteur de recherche dès le début. Bah, à l'époque, c'était pas le cas. Et donc, nous, on a réussi à survivre avec, en faisant tenir le truc avec des chewing-gums et des bouts de ficelle pendant des années. Et même après, je me souviens, la migration vers le moteur de recherche et la mise en place du moteur de recherche.
C'était un enfer.
C'était un calvaire.
Justement, je voulais te demander une question que je ne pose pas souvent, mais dans ton cas, je pense que c'est intéressant. Est-ce que tu as des souvenirs particulièrement marquants chez Price? Peu importe, à l'arrière, ça peut être des bons, ça peut être des mauvais, des moments où tu te dis... Quand t'es en train de le vivre, tu prends un peu de recul et tu dis non mais là c'est quand même incroyable ce qui est en train d'arriver, en bien ou en mal à la rigueur.
En fait, on se souvient surtout des si non j'en ai un bien. C'est un matin, notre trafic SEO a doublé.
Du jour au lendemain. Donc l'organique, le trafic organique.
Le trafic SEO organique hors marque a juste doublé. Un matin.
Et pour une raison que tu ne sais pas.
Alors qu'on avait déjà un trafic SEO significatif, un matin, il avait doublé.
Et tu n'as jamais su pourquoi? Enfin, un changement d'algorithme?
On s'est dit que c'était parce qu'on avait fait telle ou telle optimisation SEO, que c'était vraiment génial, qu'est-ce qu'on a été bon.
En plus, c'est du trafic gratuit, donc c'est quand même plutôt
sympathique. Fondamentalement, on n'en sait rien pourquoi ça a doublé. Mais ça, c'était parmi un des trucs extraordinaires. Et ça devait être en, 2007, 2008, peut-être même 2009, j'en sais rien. Mais donc ça, c'était parmi les trucs extraordinaires. Après, il y en a sûrement d'autres, des trucs extraordinaires. Mais sinon, il y en a un autre, c'est quand on a lancé le contrat Brivol. Donc le contrat Brivol, c'est une petite assurance qu'on proposait à nos clients, et qui propose probablement toujours, mais ça s'appelle plus pareil. Donc vous savez, c'est un peu l'équivalent de l'assurance, l'extension d'assurance,
de garantie.
Voilà,
Darty,
l'extension
quoi.
De garantie que tu peux acheter chez Darty.
Ouais, le truc,
tu achètes ta machine à laver et naturellement, tu as une garantie de 3 ans. Il te dit, monsieur, il faut
extension
absolument que vous preniez l'extension de garantie pour avoir une garantie de 5 ans.
Le banditisme, quoi.
Voilà. Et ça, c'est des produits à 99,9% de marge. Et on a mis ça en place sur Price Minister. Et ça a été un énorme succès. Et donc, du jour au lendemain, quasiment, en fait, on a fabriqué les bits de la boîte comme ça, en fait.
Ouais.
C'est-à-dire, du jour au lendemain, on a fait ce projet et la boîte était rentable.
Et ça, c'est intéressant que tu parles de ça, parce que souvent, les boîtes web ne sont pas très rentables, on le sait. Puis vous, en plus, avec la croissance que vous aviez, je peux imaginer que vous n'étiez pas rentable pendant un moment. Est-ce que du coup, ce projet est venu parce que vous avez décidé que vous vouliez rentabiliser l'entreprise, ou c'est arrivé un peu parce que juste vous avez eu l'idée?
Alors, ça faisait longtemps qu'on avait l'idée. Mmh. Et puis, on a finalement fait les devs et fait le projet parce qu'on est rentré dans une logique où on voulait absolument rajouter des lignes de revenus. En fait, c'était ça, c'était rajouter une ligne de revenus. Mmh. Et donc, on voulait absolument privilégier les projets qui ramenaient du revenu et qui augmentaient les revenus. Mmh. Donc, ce projet est arrivé dans cette logique-là. Dans les autres souvenirs, il y a des trucs assez épiques. Hein. C'est que je ne saurais pas dire quand, mais quelques mois après le lancement du site, notre hébergeur a déposé le bilan.
Oh, l'enfer.
Et moi, j'ai reçu le courrier juridique qui va bien, ouais, de l'hébergeur, qui dit à ses clients bon, ben voilà, désolé, on a déposé le bilan, donc ça va être compliqué. Et je me suis assis dessus. Je l'ai posé et j'ai fait comme si de rien n'était. Je me suis dit, bon, ils vont sûrement se faire racheter. C'est un non-sujet.
Confiant quand même. T'es confiant, hein.
Et un jour, en COEX, on appelait ça le COEX, avec mes associés, je dis, ouais, by the way, il y a l'hébergeur qui a déposé le bilan. Et je lui dis, mais ne vous inquiétez pas.
J'y crois pas.
Il va sûrement se faire racheter. Et c'est là que j'ai un peu pris la mesure du truc. Mais finalement, j'avais raison. Puisque
c'est vrai.
L'hébergeur s'est effectivement fait racheter.
Tu vois.
Mais ça a été assez épique. Et dans le même registre, quelques mois plus tard, encore... eh bien, il y a un des salariés de l'hébergeur qui s'est électrocuté, et ce qui fait que on a perdu notre base de données. Toute la base de données de Price est tombée et était corrompue, et on ne pouvait plus la remonter.
Ah oui.
Et heureusement, on avait une techno de base de données éprouvée. C'était un des très bons choix techno qu'on avait fait, donc on utilisait Oracle, et on a pu reprendre le dernier backup, mais qui datait d'il y a 10 jours, et ensuite réappliquer ce qu'on appelle les redo logs pour réappliquer tous les changements depuis 10 jours et pour revenir à aujourd'hui. Seulement, une fois qu'on a réussi à retrouver le backup, donc déjà, après que le mec se soit électrocuté, il a tout à sauter chez l'hébergeur. Hein. Et donc, ils ont réussi à remonter nos serveurs, et là, on a fait le constat qu'on était vraiment dans le caca. Ouais. Et passé ce constat-là, on s'est dit, bon, bah, ok, on a un backup. Ok, on reprend le backup. Bon, le backup, il a 10 jours. Bon, ok, on a X centaines, X milliers de fichiers à réappliquer pour rattraper le temps passé. On a commencé à les appliquer et on a pu, du coup, voir à quelle vitesse on absorbait ces fichiers de mise à jour. Et on a vu qu'on en avait pour 30 heures avec aucun moyen de l'accélérer.
Ouais.
Donc, on a affiché vraiment un message sur le site en disant...
Non, mais c'est là que tu te rends compte que l'entrepreneuriat, c'est quand même assez concret et que c'est quand même un petit peu la guerre, quoi. Et que t'as des trucs...
Là, c'était la guerre. Là, c'était vraiment la guerre. Je pourrais continuer, j'en ai d'autres c'était les plus épiques.
Je voulais te parler aussi de tes associés, et parce que je sais que vous étiez assez nombreux. Je crois que vous étiez combien, 4, 5?
Au tout début, on était 5.
Vous étiez 5, et donc en fait, en plus, vous ne vous connaissiez pas particulièrement, enfin toi en tout cas, tu ne les connaissais pas, eux entre eux, certains se connaissaient, je sais. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu au niveau de l'association, si vous êtes tout de suite répartis les rôles, si de ce point de vue-là, ça a été très clair depuis le début, et puis comment s'est passé justement vos interactions, et notamment le fait que vous ne vous connaissiez pas forcément, vous avez commencé à fond à bosser sur ce projet très rapidement. Une fois de plus, je te pose cette question parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions sur l'association, c'est pas forcément simple d'y répondre, et qui notamment une question pour moi, tu vois, qui me vient à l'esprit, c'est est-ce que c'était pour toi un bon choix d'être aussi nombreux comme associés? C'est quand même beaucoup. Avec du recul, qu'est-ce que t'en dirais aujourd'hui?
Alors, Sur le sujet de mes associés, c'est un de nos, je pense que c'est une de nos grosses réussites. Ça a été une de nos grosses forces. Et il y a aussi un corollaire, c'est un de nos fails. Effectivement, on avait des rôles très bien définis. Une répartition des rôles très, très, très claire. Et on ne se marchait pas sur les pieds. Il y avait assez vite un leadership très clair et affirmé et assumé par Pierre, qui s'est mis en place. Ça n'a pas été immédiat, mais c'est venu quand même assez vite. C'est-à-dire, c'était évident que c'était Pierre
l'instigateur, le
PDG. Mais il a pas tout de suite affirmé et assumé son leadership, mais c'est venu assez vite. Et ensuite, le fait d'être 5, même si on pourrait argumenter que c'était pas très bien d'un point de vue capitalistique, parce que ça faisait que finalement on était tous très dilués, je pense que ça a été une de nos forces parce qu'on était 5 à ramer très très fort. Et finalement, moi, c'est un des conseils que je donne très souvent aux entrepreneurs que j'accompagne, c'est ne faites pas ça tout seul, quoi. Ne faites pas ça tout seul. Si vous êtes que 2, c'est compliqué. À partir de 3, ça commence à tenir la route. Mais de toute façon, plus il y a de cofondateurs et plus il y a de gens qui vont suer sang et eau et qui vont travailler, qui vont être passionnés et à fond sur le projet. Si un gars est tout seul sur son projet, ben il va être tout seul à suer sang et eau, et c'est évidemment beaucoup moins efficace que d'être 5. Donc ça, je pense que ça a été une de nos grosses forces.
D'accord.
Et donc Nathalie s'occupait du commercial, Olivier s'occupait du marketing, Pierre s'occupait du back office, Pierre PKM était focus sur
les business dev
et puis levée de fonds, actionnariat, et pilotait et orchestrait, arbitrait l'ensemble, et moi je m'occupais de la technique.
Non, c'est clair.
Donc c'était très, très clairement réparti, et vraiment ça a été une enfance. Et quelque part, moi j'allais pas regarder ce que faisait le sales ou ce que faisait le marketing.
Oui, c'est ça, vous faisiez confiance
chacun.
Aussi.
Ouais. Ça fonctionnait très très bien. Ça a été, je pense, un des ingrédients de notre réussite. En revanche, le corollaire de ça, c'est que on avait un pacte qui n'était pas aux petits oignons. Et donc là aussi, c'est quelque chose que je dis à mes associés, aux entrepreneurs que j'accompagne. Je leur dis toujours attention au pacte.
Au pacte d'actionnaire.
Entre vous, associés fondateurs. Parce que s'il y en a un d'entre vous qui part, assurez-vous que vous avez moyen de récupérer ses actions.
C'est sûr, c'est un bon conseil. Le temps passe et donc on va commencer à avancer un petit peu. Je voulais parler de la vente, donc 2010, un succès incroyable, succès donc colossal quand même de Price. Est-ce que tu aurais des conseils pour les auditeurs, notamment sur le process de vente? Qu'est-ce qui, pour toi, a fait que ça a été un tel succès? Parce qu'en plus, malgré tout, à l'époque, il n'y avait pas tant de startups françaises qui se sont vendues. Vous avez vendu en plus à des Japonais, donc c'est un peu sorti de nulle part quand même. Est-ce que tu peux me raconter un peu peut-être comment ça s'est passé? On aime bien quand même connaître l'envers du décor sur le podcast.
Alors, et puis au-delà de ça... Il y a l'envers du décor. Il y a de la matière.
Moi, je le connais.
Mais... Écoute, en fait, le premier conseil, c'est d'être patient. Parce que ce qui s'est passé pour nous, c'est que d'abord, il y a eu 2008 où on avait tout préparé pour faire une IPO. Et donc, on allait introduire Price Minister en bourse. Et puis, tout était prêt, on n'avait plus qu'à appuyer sur le bouton pour le décollage. Malheureusement, il y a eu la crise de 2008 qui est arrivée juste quelques jours trop tôt. Et finalement, c'était presque une chance. On a eu de la chance parce que je pense que ça ne se serait pas très bien passé pour nous en bourse. On a eu une énorme chance. À la fois une énorme déception et une énorme chance finalement là-dedans. Du coup, grosse baisse de morale quand même après, parce que gros travail pour faire toute la documentation, etc. etc. Énorme préparation juridique. C'est vraiment beaucoup de taf. Les marchés se sont remis Et puis, on s'est dit, bon, ben, il faut qu'on prenne une banque d'affaires, on va vendre. Et je crois, de mémoire, qu'on a fait bosser UBS.
D'accord.
Et on est rentré dans un process, tout ce qu'il y a de plus classique. On a fait énormément de rendez-vous pour faire un deck. UBS a beaucoup bossé, on a fait tout le tour du marché. Et on a eu quelques marques d'intérêt. Et finalement, pas grand-chose. Mais à la dernière minute, on a eu une LOI de 3 Suisses.
Ah bon ?
Pour un montant faramineux.
Donc une lettre d'intention de 3 Suisses.
Une lettre d'intention de 3 Suisses. On a fait les réunions qui vont bien. On a rencontré tout le management de 3 Suisses. Et... ben, un peu comme mon hébergeur, 3 Suisses a plus ou moins déposé le bilan, genre 3 semaines après. Ouais. Quoi. Enfin, c'était, je sais pas exactement le timing, mais c'était caricature. Enfin, c'était une blague. Quoi. Enfin, on avait cette LOI où il nous proposait quand même 240 millions. Et quelques semaines après, la boîte n'existait plus. Quoi.
C'est absurde.
C'est vraiment. C'était...
Mais donc là, nouvelle déception, ça doit être hyper dur quand même. Parce qu'en plus, c'est vrai que quand t'as bossé autant...
Et en plus, c'était la seule offre qu'on avait.
Ouais.
C'était la seule offre qu'on avait.
Donc se remettre à bosser, pas facile juste derrière. Ouais.
Et malgré tout, on s'y est remis. Peut-être un petit peu mollement, mais finalement, l'élan revient. De toute façon, après, il y a un quotidien, il y a des équipes. On était 200 à l'époque, hein, donc... C'était pas une petite boîte, on était dans l'immeuble boulevard de la Villette.
Ouais.
Et t'es jamais venu là-bas d'ailleurs.
Dans ta tour d'ivoire là.
Parce que il me semble. Hein.
Non, pas là. Non, oui, il y avait un truc rayé au mur.
Ouais, ouais. Et là-bas, t'es pas venu non plus, toi.
Si, je suis venu une fois.
Venu.
Ouais.
Bref. Et puis. Je sais pas combien de temps après. Mais un certain temps plus tard, alors qu'on n'y croyait plus. Et puis, tout le travail d'UBS était caduc.
Bah oui, forcément.
On a Rakuten qui...
Qui débarque de nulle part.
De nulle part.
Vous ne les avez pas... C'est eux qui viennent vous chercher. Magique.
Ouais.
Parce qu'ils veulent attaquer le marché européen.
Ouais. Ils veulent s'internationaliser. Ils se sont lancés dans une démarche d'internationalisation... coûte que coûte.
Donc parce qu'ils
sont,
blanc,
ils sont
quoi.
Condamnés. De toute façon, s'ils restent au Japon, ils sont condamnés. Parce que tôt ou tard, Amazon ou eBay débarquer. Ou quelqu'un d'autre va débarquer et les tacler. Donc, ils sont condamnés. Enfin, ouais. Il faut qu'ils anticipent ça et qu'ils aillent à l'international. Donc, Rakuten débarque. On a appris après que Rakuten discutait également avec Rue du Commerce.
D'accord.
Finalement, ça s'est mieux passé avec nous. Et Rakuten nous a fait un chèque.
Écoute, la patience, donc, mère de toutes les vertus.
Voilà,
la
patience
fait
et d'attendre que le vent veuille bien tourner. Gardez les voiles. Hein,
ouais.
Gardez les voiles.
Bien ouvertes.
Ben, ouvertes ou ben, alors, d'une façon qu'on puisse les ouvrir rapidement, en tout cas. Saisir le vent quand il est là.
C'est ça. Bon, on va pas forcément parler de la période Rakuten, etc., si ça te va, parce que je voulais te parler aussi d'investissement, parce que maintenant, en fait, donc, t'as quitté Price Minister, et du coup, tu es investisseur dans plein de boîtes, dont Gémio, mais dans plein de boîtes, et t'es très actif et impliqué avec les boîtes dans lesquelles tu as investi. Du coup, ma première question, c'est quoi pour toi être un bon investisseur ?
Être un bon investisseur ? Je ne pense pas qu'il y ait un bon investisseur. Je pense qu'il y a différentes catégories d'investisseurs. Il y a des investisseurs qui vont apporter du cash et qui ne vont pas être chiants. Ça, c'est déjà pas mal.
C'est pas mal.
Objectivement,
ouais.
C'est déjà pas mal. Il y a des investisseurs qui apportent du cash et qui sont chiants. Donc, c'est un peu moins bien. Il vaut mieux
être... Il y en a qui n'apportent pas beaucoup de cash et qui sont chiants.
Voilà. Et après, tu en as qui vont apporter du cash et qui, en plus, vont t'apporter du conseil, t'apporter de l'expertise sur comment trouver encore plus de cash, comment bien gérer tes priorités, quelles sont tes priorités, qui vont peut-être t'aider à faire du recrutement, qui vont passer de faire des entretiens avec certains des gens que tu envisages de recruter, qui vont te dire que maintenant, quand même, ce serait bien de trouver un DAF, qui vont te dire, mais ta croissance, là, elle est pas si mal que ça. En fait, toi, tu piaffes, mais en fait...
Qui est là pour mesurer aussi les émotions de l'entrepreneur qui est né dans le guidon,
bah, écoute, tu sais, moi, par rapport à toutes les autres boîtes que j'ai en portefeuille, objectivement, je trouve que tu t'en tires bien, donc continue, tu vois. Le côté benchmark, je pense que ça c'est pas mal.
Ouais, c'est utile.
Bah, tu vois, hier matin j'étais un board, ce matin j'étais un board, cet après-midi j'étais un board.
Je sais que t'en fais beaucoup. Ouais.
Le board de hier matin, c'est une boîte qui a pas encore atteint 100 000 euros de revenus mensuels récurrents, qui est plutôt aux alentours de 50. Mais en fait, je suis bluffé par la vitesse à laquelle ils ont atteint les 50 000 euros de revenus récurrents, tu vois. Et donc, rien que ça, rien que leur dire, vous allez assez vite, les gars. Continuez comme ça ou vous êtes sur une très, très belle trajectoire. Bah, juste de pouvoir leur dire ça, je trouve que ça a de la valeur.
Mmh. Non, mais c'est clair.
Ensuite, de les aider à prendre du recul, de leur dire, écoutez, vu ce que vous avez sur le compte, vu tout ce que vous nous avez raconté, vu la trajectoire, vous avez quelques problèmes RH, concentrez-vous là-dessus. Parce que si vous résolvez vos problèmes RH et vous ensuite vous faites ça, ça va le faire quoi. Enfin, tu vois. Donc aider à mesurer les différentes priorités, mesurer de la douleur, tu vois, sentir niveau de douleur. Parfois dire au gars, ouais, je sais que t'en baves, mais continue à baver, c'est normal. Et puis tu verras, tu vas t'habituer à la douleur.
La patience. Donc, t'es investisseur toi-même, mais en tant que business angel, c'est quoi pour toi les grands critères qui comptent réellement quand t'investis dans une boîte ? Parce qu'en plus, t'investis en seed aussi.
Oui.
Donc, qu'est-ce que tu regardes réellement ?
Alors, je vais pas répondre à la question des grands critères qui comptent parce que je les connais pas. Mmh. En revanche, ce que moi je regarde.
Oui, oui. Non, mais je veux dire pour toi, hein, personnellement.
Ouais. Pour moi, l'équipe. L'équipe compte énormément. Et donc, c'est marrant parce que c'est très théorique, hein, parce que ça m'a pas empêché de faire mes erreurs et d'investir. Alors que j'avais dit jamais j'investirais dans un solo entrepreneur. Je l'ai fait. J'ai fait cette erreur et je l'ai fait plus d'une fois. Et à chaque fois que je l'ai faite, je me suis dit jamais plus je referai cette erreur et ça m'a pas empêché de la refaire. Mais si je devais donner des conseils, il faut éviter les solo entrepreneurs. Ça, c'est clair. Ensuite, je dirais la qualité de l'équipe et le feeling de l'équipe, rencontrer tous les membres d'une équipe avant d'investir dans une boîte, rencontrer tous les membres d'une équipe et s'assurer qu'on pense que effectivement tous les membres de cette équipe sont bien câblés. Je pense que ça c'est un des éléments vraiment pour moi qui est vraiment important. Et qui du coup je suis obligé de me faire violence parce que je me dis bon là c'est bon, j'aime bien le truc et tout, j'aime bien le fond. Ah, il faut que je rencontre les autres cofondateurs. Mmh. Il faut que je fasse le truc one-to-one avec les autres cofondateurs. Donc, cette équipe, c'est super important. Ensuite, évidemment, il y a le produit et le marché sur lequel le produit se situe. La profondeur du marché, c'est une évidence. Mais je dirais presque plus que ça. Je pense que ce qui est important dans la typologie de boîte à laquelle je m'intéresse aujourd'hui, c'est d'essayer de percevoir la douleur, le pain, on parle du pain que le produit adresse. Et tu peux avoir un super produit sur un super marché qui est vraiment profond, mais dont tu te dis, ouais, mais ce marché, on va avoir du mal à le décapsuler, tu vois, parce que le pain...
Il n'est pas si fort.
Et finalement, le marché, il peut survivre. Il n'a pas besoin qu'on...
D'un nouvel entrant,
tu vois, le problème, il peut continuer d'exister. Il n'a pas vraiment besoin qu'on y réponde. Et donc ça, c'est... Et finalement, ce que je te dis là, c'est quelque chose que j'ai appris à affiner et à mesurer un petit peu. C'est un critère un peu nouveau pour moi. Avant, je me disais, il faut qu'il y ait un marché. Voilà. Aujourd'hui, je raisonne en termes de pain. Et ce qui va de pair, ça va être la nature de ce marché. Qui est-ce qui est décideur sur le marché? Puisque là je parle plutôt de boîtes B2B et donc quelle est la typologie de boîtes qu'on adresse, est-ce que c'est plutôt des grands comptes, des petits comptes, et quelle va être la longueur du cycle de décision. Le DAF qui est décideur, est-ce que c'est la direction marketing, est-ce que c'est le DG, est-ce que c'est le directeur
technique.
C'est
sûr que dans le B2B, si jamais tu as un process de décision qui est extrêmement long, ça fait que tout est plus lent.
Et surtout, voilà, est-ce que le pain est ressenti, je dirais, par la DG ou par le DAF? Ou est-ce que c'est juste un pain qui est dans les, perdu dans, quelque part dans l'équipe technique, qui va avoir du mal à trouver écho auprès du DG ou du DAF?
Une dernière question sur le sujet, parce que je l'ai assez peu abordé dans le podcast, c'est est-ce qu'il y a des erreurs fréquentes que tu vois chez des jeunes qui se lancent, parce que tu vois passer quand même énormément de startups qui te pitchent, les trucs basiques où tu te dis non mais ça, sincèrement, c'est un no-go, enfin je sais pas, ça peut être au niveau du pitch, ça peut être au niveau de l'équipe peut-être, tu parlais du solo entrepreneur, voilà des choses où tu te dis juste les amis, faites attention quoi, ça n'importe quel investisseur, et moi en particulier Justin Ziegler, c'est impensable que j'investisse dans une boîte où vous faites ça.
Enfin impensable non, mais c'est vrai que lancer une boîte de hardware en France, c'est compliqué.
C'est spécifique, mais oui.
Mais il y a encore des... Il y a plein de dossiers. Il y a plein de gens qui veulent lancer du hardware en France. Et bon, bah, le hardware, c'est quand même compliqué de le financer en France. Quoi. Il n'y a pas de... Enfin, si, aujourd'hui, lancer une boîte de e-commerce, même, enfin, ça fait plusieurs années que lancer une boîte de e-commerce, c'est quand même c'est assez compliqué. Ouais. Quoi. Il y a des typologies de boîtes qu'on voit et dont on se dit bah ça ouais c'est sympa, le marché est vraiment là, mais c'est peut-être pas très scalable. C'est à dire qu'il va peut-être falloir beaucoup de monde, beaucoup de RH pour adresser le problème, donc, et puis les RH il va falloir qu'ils soient talentueux etc, et il va falloir les fidéliser, donc c'est pas très scalable. Je ne sais pas s'il y a une erreur type... après, j'ai des trucs, moi, qui me font réagir. Moi, si je n'ai pas un deck qui est clair et concis, qui tient en moins de 20 pages d'une presse PowerPoint, déjà, il commence à marquer des points négatifs. Quoi. Parce qu'il y a effectivement des decks, où, d'ailleurs, j'en parcourais un récemment, où au bout de plusieurs pages, bah, je n'ai toujours pas compris ce qu'ils font.
Ça, c'est un problème.
Et donc ça, c'est un problème.
Avoir une proposition de valeur super claire.
Ouais. Ouais. Et parfois, il y a des gens qui ont une proposition de valeur super claire, mais elle transpire pas de leur presse. Ouais, quoi. Donc il y a un sujet communication. Il faut du talent de communication. Il faut que les gars aient un pouvoir de séduction. Il y a un pouvoir de séduction qui compte.
C'est sûr. Écoute, j'aime bien terminer le podcast par parler un petit peu plus de questions personnelles. Donc on va y aller si ça te va. Une question qui m'intéresse toujours, c'est est-ce que tu as eu des mentors dans la vie ou pas du tout?
Alors, je pense que je faisais plutôt partie de cette catégorie de jeunes cons qui croient qu'ils n'ont pas besoin de mentors. Après, j'ai eu la chance de bosser avec deux, trois personnes qui étaient plutôt... des gens assez forts. J'ai eu quelques... dans ma toute première start-up, j'ai côtoyé des gens qui étaient des brutes.
Ouais.
Des brutes sur leur sujet techno. C'était des brutes.
Donc sur la partie tech, ils t'ont formé, mais t'as pas eu de personne dans la durée où vraiment tu te dis c'est un mentor, quoi.
J'ai pas eu cette chance.
Non, écoute.
Il y a des gens que j'admire, que je respecte. D'ailleurs, je suis toujours en contact avec un des fondateurs de cette boîte. Mais on n'a pas eu une relation de mentor. À la limite, on a une relation plus forte aujourd'hui qu'à l'époque.
Une autre question, c'est si tu devais résumer, c'est pas facile de parler de toi-même à la troisième personne, mais pour toi, c'est quoi ton plus grand talent?
Mon plus grand talent, je pense que c'est ma passion. C'est la passion et c'est l'énergie que je suis capable de déployer quand elle est fuelée par ma passion. Je suis capable de déployer une énergie et de porter et d'embarquer, d'emporter des gens. En fait, je m'en suis rendu compte une fois quand j'étais CTO pour toute l'Europe du groupe Rakuten, au sein du groupe Rakuten. Et il y avait un management meeting au Japon, un CTO meeting. Donc tous les CTO du groupe étaient réunis. Et parmi les CTO du groupe, j'étais plutôt un des CTO avec une assez grande, avec une certaine envergure, je veux dire.
Ou juste CTO, c'est directeur technique pour le
directeur technique, quoi. Ouais. Et on m'a dit, Justin, il faut que tu fasses le... C'est toi qui vas tenir le discours, micro, oui, faire le discours de fermeture. Ah bon? Et je...
Oups.
Et je raconte quoi? Bah, ce que tu veux. Et j'ai passé la semaine pendant laquelle j'étais là-bas, pendant laquelle il y avait plein de réunions de tous ces CTO qui discutaient de sujets techniques. Tous les soirs, je faisais ma presse pour truc. Et il en est sorti une presse de leadership où j'ai fait une sorte de show. Je hurlais parce que les conditions de sono étaient horribles et donc j'avais mon micro et je hurlais.
J'imagine
je
tellement.
Je hurlais dans mon micro, j'avais mal à la gorge après. Mais c'était un vrai show que j'ai fait. Ouais. Et là, je me suis rendu compte que j'ai été, que j'ai essayé d'emporter, d'embarquer tous ces des gens et j'étais vraiment dans une démarche de leadership. Mmh. Et à ma grande surprise, il y a eu plein de gens qui ont fait la queue pour me serrer la main après. Et donc, c'est là que je me suis rendu compte que je me suis dit, waouh, il s'est passé un truc là. Et j'ai compris ce que c'était que le leadership et j'ai compris que j'en avais probablement pas mal, pas mal en réserve et que j'étais capable de déployer une espèce d'énergie de leadership.
Ouais, communicatrice, quoi.
Ouais, et justement, et que cette énergie, elle se transmet. Mmh. Et elle se transmet par la passion.
Complètement. Voilà. Et j'imagine que c'est un truc que tu cherches aussi chez les entrepreneurs chez qui tu investis parce que naturellement, côté séducteur. Une autre question, le meilleur conseil qu'on t'ait donné.
Le meilleur conseil
Elle est dure,
qu'on
m'ait
donné.
Je suis assez contente, moi, de ne pas répondre à ces questions, pour tout te dire.
Le meilleur conseil qu'on m'ait donné. Eh bien, ça y est, j'ai trouvé. Le meilleur conseil qu'on m'ait donné, c'est un conseil business. C'est que finalement, dans un deal, ce qui compte, c'est ce que tu gagnes toi. Enfin.
Toi personnellement.
Toi perso, ce que gagne le mec d'à côté ou le mec d'en face.
Mais c'est pas ce qui compte.
C'est pas grave. Ce qui compte, c'est ce que toi tu gagnes. Mmh. Et donc c'est ça qui te permet toi de juger si c'est un bon deal ou si c'est pas un bon deal. Peu importe que le mec d'à côté il ait gagné plus que toi.
Oui, ça revient à ne pas avoir d'ego finalement.
Je sais pas, peut-être, hein,
je veux dire, tu vas pas forcément gagner moins, mais ce que je veux dire, c'est pas forcément se comparer et pas en tout cas faire les choses pour les autres aussi.
Ou par rapport aux autres.
Par rapport aux autres.
Par rapport aux autres, ouais. Et effectivement, ça, c'était un conseil que m'a donné un oncle un jour. Un oncle tchèque.
Bon, on le remercie. Une autre question, c'est par rapport un peu à ton rythme de vie et à tes journées. J'aime bien demander aux personnes que j'interviewe sur le podcast, si jamais on revenait, je ne sais pas, 10 ans en arrière, à l'époque où tu étais vraiment au top, ou peut-être juste avant la vente à la rigueur de Price, est-ce que tu peux me dire à quoi ressemble, me décrire assez précisément, à quoi ressemble une journée type de Justin Ziegler? Donc, je veux bien que tu rentres dans le détail, que tu me dises à quelle heure tu te lèves le matin, qu'est-ce que tu fais. Enfin, vraiment, n'hésite pas à me dire. Alors, pour qu'on essaye de se projeter, tu vois, et de comprendre ça ressemble à quoi la vie du directeur technique de Price Minister.
Alors, c'est pas très fun. Hein.
Bah, écoute, mais comme ça, les gens vont réaliser.
Donc, réveil à 7 heures.
Ouais.
À partir de 2008... Réveil de ma fille, d'abord à 4 heures du mat, qui a perdu sa tétine. Pendant 2 ans, de 2008 à 2010, toutes les nuits, j'étais réveillé par ma fille qui avait perdu sa tétine. Donc, il fallait que je me lève et que je lui remette la tétine dans la bouche. Et elle s'endormait. Donc, ça durait 5 minutes. Mais voilà, j'avais mon petit réveil à 2 heures ou à 3 heures ou à 4 heures du matin. Mais j'avais pris l'habitude et je m'endormais après. Mais ça m'a ôté l'envie d'avoir un troisième ou un quatrième gamin. Un troisième. Après réveil avec mon réveil à 7 heures et puis je me fais mon thé puisque je suis d'origine anglaise hein, voire même carrément anglais, donc je bois du thé, je ne bois pas de café. Je me fais mon thé et j'allais apporter un jus d'orange à mon ex-femme et avec mon thé j'allais allumer mon PC et je me réveillais en train de boire mon thé devant le PC, en train non pas de consulter mes mails, mais en train de regarder toutes les courbes et de regarder toutes les alertes et tout le système de monitoring de Price Minister. Donc tous les matins, j'avais ma routine.
Première chose. Quoi.
Première chose, 7h05, en train de boire mon thé et en train de regarder toutes les courbes. Ça démarrait comme ça. Et puis... pendant ce temps-là, les enfants et mon ex-femme se levaient Et puis, alors en fonction des époques, de l'époque, soit je devais amener une de mes filles à l'école, soit pas. Mais je pense que non, mais je faisais ça en semaine. Du coup, passer mon moment de vérification de tout price. Après, vite, fallait que je me douche, hein, ce qui était jamais vite, parce que en fait, la douche, c'était un truc sacré pour moi, parce que j'ai pas mal de problèmes de dos dans la vie, et j'ai pris l'habitude de prendre une longue douche pour me dérouiller le dos. Et donc, voilà, sortie de ma douche, par contre, il fallait que je me dépêche, parce qu'il fallait que j'amène l'une des petites à l'école. Et après, j'allais directement chez Price. Mm. Et donc, j'arrivais chez Price
vers
9h, un truc comme ça, ouais.
Et en fait, chez Price, tu avais des journées qui étaient un peu tout le temps identiques, qui étaient très organisées. Tu es du style à avoir structuré tes journées, tu sais, je sais pas, le matin, travail analytique, l'après-midi, des rendez-vous, ou c'était un peu au fil de l'eau?
C'était au fil de l'eau. J'avais beaucoup de réunions. Les réunions étaient généralement prévues à l'avance. Je suis un gros utilisateur du calendrier. Je prévoyais même des coups de fil, et même encore aujourd'hui. Et du coup, beaucoup de réunions. Mon déjeuner était généralement un déjeuner de travail avec un membre de mon équipe. Je faisais des one-to-one avec tous les managers de mon équipe.
Parce qu'en plus, tu avais quand même énormément de personnes en râteau direct, non ?
Ouais, ouais. Et ouais, j'enchaînais. Et puis généralement, je rentrais chez moi. Enfin, en fonction des époques, ça pouvait être... J'arrivais chez moi à 20h ou à 21h ou à 22h, voire plus tard, quoi. Et souvent, les fois où je rentrais chez moi... Enfin, généralement, si je rentrais chez moi, je dirais à une heure pas trop tardive, bah, je dînais. Et après le dîner, je me remettais à travailler.
D'accord, donc tu bossais de chez toi
et
aussi.
Et je bossais de 22h à 23h. Parfois, souvent, en fait, j'avais des prêts parce que j'intervenais à je ne sais quel salon ou je ne sais quel...
Donc quand même une vie truc externe. très centrée autour du travail, quoi.
Ouais. Et même le week-end, en fait.
Mais ça te plaisait?
Alors, oui. Il y a quand même des fois où ça a été un peu une souffrance, tu vois. Je me souviens d'une fois, avant qu'on ait notre fameux moteur de recherche, où un samedi matin, j'étais réveillé par un de mes gars qui m'appelle et à 5h du matin, qui me dit « on n'a pas réussi à reconstruire l'index, machin », ce qui concrètement voulait dire qu'on n'avait pas de moteur de recherche. Et donc, on a passé... on a passé quasiment 8 heures d'affilée, de 6 heures du matin jusqu'à 2 heures de l'après-midi, à cogner sur ce truc pour arriver à le reconstruire, quoi. Et pendant ce temps-là, le site était fermé, c'était un samedi matin, et manque de bol, ce week-end-là, j'avais prévu d'aller en week-end, justement.
Donc, tu n'as pas fait.
Et donc, si, je l'ai fait, mais avec... On est parti l'après-midi.
Justement, tu bossais le week-end en général ou pas tellement ?
En fait, le week-end, même avant Price, c'était pour moi un moment où j'aimais arriver à coincer une demi-journée de boulot le week-end. C'est quelque chose que j'ai fait très tôt, même avant d'être actionnaire de ma boîte, quoi. C'était du coup des moments où je pouvais travailler calmement, avancer sur des sujets de fond. Donc, chez Price, au début, on bossait même toute la journée le week-end. Enfin, à un rythme un petit peu plus calme, mais on bossait tout le samedi et tout le dimanche, on allait au bureau carrément.
Par rapport à tes très très grosses journées, je me pose toujours une question au sujet un peu de l'hygiène de vie. Parce que quand on bosse autant, forcément la santé, entre guillemets, tu vois, elle en pâtit un petit peu. Alors j'ai plusieurs questions. Déjà au niveau du sommeil, t'es plutôt quelqu'un qui dort beaucoup, pas tellement?
Ouais, je dors beaucoup.
Genre 7-8 heures, un truc comme ça. Bon, c'est pas énorme, hein, mais c'est bien.
Ouais, j'ai besoin...
Et donc ça, t'essayais de le garder quand même, même à l'époque où tu travaillais autant, tu préservais le sommeil.
Ah, j'avais besoin de me coucher à 11h, ouais.
D'accord.
Alors, je pouvais exceptionnellement, dans des situations de crise, dormir moins. J'arrivais à tenir avec une certaine dose d'adrénaline qui me maintenait. Mais dès lors que la crise était terminée, que le site était de nouveau en marche, j'avais une espèce de... Je m'éteignais et je...
Sinon, au niveau sportif, alimentaire, juste, tu vois, sortie, c'était quelque chose qui comptait pour toi ou tu étais tellement focus sur Price que tu l'as un petit peu laissé de côté?
Alors, je pense que j'ai enfin, j'ai énormément sacrifié pour Price, dont effectivement l'aspect un petit peu familial, mais surtout social. J'étais hyper, hyper focus, monomaniaque.
Et c'est un conseil
parce que si tu veux pour moi sortir, c'était je vais pas sortir, je serais fatigué. Ouais. Et du coup, c'est marrant parce que du coup, j'ai lu un article qui m'a éclairé parce que ça m'a permis de comprendre dans quel état j'étais. C'est un article au sujet de l'équipe d'Aveyron, une équipe olympique d'Aveyron anglaise. Les mecs individuellement étaient vraiment topissimes, mais l'équipe ne performait pas. Et un jour, ils ont changé de coach. Et leur coach, le nouveau coach, leur a dit « Moi, je vais vous amener sur le podium. Vous allez être sur la première place du podium. Mais pour y arriver, je veux que tous les jours, quoi que vous fassiez, avant de le faire, demandez-vous si ça va vous aider à atteindre le podium.
» Ouais, il faut être focus.
Quoi hein. que vous fassiez, vous vous posez la question. Donc, avant de boire une bière, demandez-vous, est-ce que cette bière va m'aider à atteindre le podium ? Est-ce que cette soirée va m'aider à atteindre le podium ? Etc. etc. Et évidemment, c'est certainement excessif, mais c'était un peu l'état d'esprit dans lequel j'étais chez Price. Enfin, les 5-6 premières années.
Écoute, du coup, on comprend mieux le succès de l'entreprise, surtout si vous étiez tous les 5 dans ce cas. La dernière question que j'aime bien poser, c'est par rapport aux livres. Moi, j'en suis une grande consommatrice. Les livres que tu recommandes le plus ou qui t'ont le plus marqué et dont tu peux nous parler, est-ce qu'il y en a quelques-uns ? Ça peut être, sincèrement, ça peut être tout autant de la littérature, des bouquins business, self-développement.
Alors, il y a effectivement deux bouquins business, enfin tech, en fait, qui m'ont un peu marqué. Et il y a aussi des bouquins, il n'y a pas un bouquin qui a été un truc hyper éclairant.
Révélation.
Mais il y a plusieurs bouquins qui m'ont marqué dans ma jeunesse. Malheureusement, avec Price, j'ai un peu arrêté de lire, puisque ça ne me permettait pas d'atteindre le podium.
Mais écoute.
Mais, c'est un peu anecdotique, hein, mais tu vois, La nuit des temps de Barjavel.
Ouais, magnifique.
C'est un livre qui m'a marqué. C'est un livre qui m'a marqué. Et il y a un autre livre, alors ça va peut-être pas te parler, je sais pas, c'est peut-être un truc de nerd, c'est Le monde des non-A. C'est un truc de science-fiction.
C'est de la science-fiction, ça me dit quelque chose.
C'est quoi l'auteur? Et ça a été traduit par Boris Vian.
Et ben c'est ça, j'en ai entendu parler à cause de ça, mais je l'ai pas lu.
Et ça a été un livre assez marquant pour moi. C'est vraiment de la science-fiction avec des gens qui se téléportent, enfin des trucs. Je m'en souviens très vaguement, mais je me souviens quand je l'ai lu, ça m'avait un peu interpellé et marqué. Genre j'en rêvais, tu vois, je le lisais, j'en rêvais toute la nuit. J'étais le héros qui se téléportait. De même que dans Barjavel, j'étais le mec qui était fou amoureux de cette femme. Et y en a un troisième, c'est la promesse de l'aube de
magnifique.
Romain Gary. Que j'ai trouvé super aussi. Alors j'ai vu qu'il y a eu un film que j'ai pas vu
non plus.
Mais je crois que c'est pas un film qui a marqué l'histoire du cinéma.
Moi j'aime bien pour les livres que j'aime énormément plutôt privilégier le livre.
Ouais,
mais bon.
Voilà. Et côté tech, il y a eu deux livres, mais donc là ça va être très jargonneux. Hein.
Mais vas-y.
Y en a un, c'est More Effective C++ de Scott Mayer.
D'accord.
Donc qui a été un peu ma bible hein, à l'époque où je codais.
Et qui est donc un bouquin qui t'apprend à coder quoi, enfin
qui
te donne
non,
des...
c'est vraiment ça t'apprend à devenir ceinture noire triple dan, je sais pas quoi.
Ok.
Ça t'apprend à faire de l'hélice ski.
Okay.
Non, c'est vraiment très 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 avancé, c'est de l'art. Et c'est vraiment mais c'est très conceptuel, c'est hyper. Mais ça a été un peu une révélation pour moi ce livre. Et je pense que c'est là que j'ai franchi un cap en termes de codage et en termes de réflexion.
Tu l'as lu à quelle époque ?
C'était à mes premières années
de
start-up. Mes
D'accord.
premières années de start-up. Et puis j'en ai une deuxième que m'a donné un de ces mecs très très forts avec qui j'ai collaboré, qui était là à la même époque.
Mm-hmm.
C'était un bouquin écrit par le gars qui a fait Microsoft Visual Studio. Donc c'est un des outils de programmation de Microsoft, je ne sais pas si ça te parle. Et donc ce type, c'est un peu le père de ce produit qui est un des produits emblématiques de Microsoft.
Mm-hmm.
Et c'était sur la gestion de projet. Et en fait, il y avait tout plein de préceptes là-dedans et de façons de faire. qu'on retrouve aujourd'hui dans le développement agile et que j'avais à l'époque mis en place chez Price Minister. Et on ne parlait pas d'agilité, mais c'était juste des bonnes règles. Par exemple, qu'il faut pousser ton système en production, mettre ton produit, deploy frequent deployment, qui aujourd'hui est devenu le continuous deployment.
Qui n'était pas du tout le cas à l'époque.
Déploiement, et ce n'était pas du tout des choses qu'on manipulait à l'époque, mais que donc moi j'ai dû lire ce bouquin.
Donc c'est presque plus des bouquins de philosophie sur la tech ou
ça,
sur la gestion.
Un petit peu, ça c'était un petit peu de la philosophie, tout à fait. Et j'ai dû lire ça en 98, 99. C'est le genre de livre qu'on ne lit pas d'un trait. Hein. C'est un genre de livre qu'on lit quelques pages par-ci, par-là. Puis
tu
on repose. Puis on... mais qui a été assez... qui a percolé en moi, tu vois. J'ai laissé ce truc m'imprégner. Je me suis pas mal imprégné de ça et je l'ai vraiment utilisé chez Price Minister. C'était assez clair.
Bon, bah merci Justin pour tous ces partages. La dernière des dernières questions que je pose toujours, c'est où est-ce qu'on peut te trouver sur Internet si on a besoin de te contacter, LinkedIn peut-être.
Oui, globalement, je réponds plutôt aux invitations et aux messages LinkedIn.
Bon, t'es très sollicité, je le dis aux auditeurs, donc voilà, mais LinkedIn éventuellement.
Tout à fait. LinkedIn, ça marche.
Ça marche. Bon, je mettrai ça en tout cas dans les notes de l'épisode. Je te remercie mille fois pour tous tes partages.
Merci à toi.
À très bientôt.
À bientôt.
Hello à nouveau. Et quelques dernières petites choses avant de vous quitter. Comme d'habitude, si vous cherchez les notes de l'épisode, avec toutes les références, que ce soit les outils, les livres cités, c'est simple, allez directement sur le descriptif du podcast, sur l'appli de votre choix. Aussi, si vous souhaitez me contacter pour me poser des questions, me proposer de nouveaux invités peut-être, ou juste me faire un feedback, n'hésitez pas. J'adore ça, les feedbacks. Donc foncez directement sur Twitter ou Instagram sous le pseudo Pelaigneau, @PLAIGNEAU. J'essaye de répondre quand on me parle, donc n'hésitez pas. Et comme à chaque fois, vraiment mille merci d'avoir écouté jusqu'ici. N'oubliez pas, si le podcast vous plaît, que vous appréciez tout ce travail, le plus simple pour m'aider, c'est tout simplement de mettre soit un petit mot doux, soit une note 5 étoiles sur iTunes ou de partager sur vos réseaux sociaux aussi. Ça donne le moral, ça m'aide énormément à faire connaître le podcast, donc n'hésitez pas. Voilà, merci à tous et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.